On y va.
Eh bien, je voudrais remercier d'abord l'association Lecture et Rencontre pour son invitation, et notamment donc Béatrice Reynaud, sa présidente, et puis Anne-Joseph qui est venue me chercher à Saint-Malo, alors que je faisais une conférence sur la BD déjà, et déjà sur le hors-série, pour me proposer de venir à Marie-Leroy. Donc c'est à ce moment-là que j'ai accepté déjà. Je voulais aussi remercier du coup la médiathèque, la bibliothèque Pierre Bourdon de nous accueillir, et puis Michel, Valérie, c'est ça, j'ai bien retenu.
Oui.
Merci beaucoup. Et puis Monsieur le maire aussi, pour sa présence ici. Je ne pensais pas, je suis un peu surpris, donc pression supplémentaire, merci. Donc je me présente, Renaud Février, donc moi je suis journaliste pour l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, pour lequel je suis d'une part data journaliste, donc ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais moi mon quotidien, voilà, c'est ça. C'est des tableaux Excel comme ça, des centaines, voire le plus souvent des milliers de chiffres ou de données, et puis on en sort des graphiques, notamment, là vous voyez, les élections municipales dernièrement, évidemment, mais j'ai aussi travaillé sur Parcoursup, j'ai fait les 474 niches fiscales françaises, voilà, c'est ce genre de choses. Et puis, d'autre part, donc je suis un grand lecteur et un passionné de BD, et donc tout naturellement journaliste BD au sein du Nouvel Observateur, pour lequel j'écris donc des chroniques sur les nouveautés, je fais des interviews d'auteurs, on en a fait en vidéo aussi, on a fait des interviews où les auteurs dessinent en direct, etc. Donc maintenant que je me suis présenté, je vais jouer au curieux et je vais vous demander de vous présenter également. Alors je vais pas faire les noms, les métiers, parce que sinon je serais tenté d'en faire un tableau Excel du coup. Non, le but c'est plutôt de savoir quel est votre rapport à la BD. Et du coup, je vais commencer par une question simple. Qui parmi vous se définit comme un lecteur de BD déjà? Oh, il y en a quand même, ça va, merci. Qui a déjà lu plusieurs BD, donc vraiment pas mal? Ouais, oh, bah, ça va. Au moins une. Qui? Au moins une. Bon, et à la fin, qui n'a jamais lu de BD dans l'assistance? Ben voilà, donc tout va bien. Sinon, j'aurais une petite pression supplémentaire si c'était moi qui devais vous faire déclencher l'acte d'acheter des BD. Donc, comme je vous le disais, donc je suis pour ma part un grand passionné de BD et data journaliste, et donc c'est pas naturellement que l'année dernière, avec une collègue, j'ai réuni mes deux passions, et on s'est lancé dans un top 100 des meilleurs BD du 21e siècle. Alors un top 100 qui est donc d'un genre nouveau selon nous, puisque comme je le disais déjà, c'est du 21e siècle, c'est-à-dire qu'on a évacué toutes les BD qui relevaient selon nous du patrimoine. Donc on voulait pas avoir un top 100 avec Tintin, Astérix et Obélix, etc. Donc on a vraiment réduit aux 25 dernières années, ou une manière, comme le dit ma collègue, de faire un nouveau canon de la BD moderne. Voilà. Donc on voulait définir nous quelles sont les BD qu'il faut lire maintenant, et celles du passé on les connaît plus ou moins toutes. Et l'autre raison qui fait que ce classement est inédit, c'est qu'il a été participatif. C'est-à-dire qu'on a en fait demandé à des centaines de personnalités du monde de la BD, des Français, des étrangers, des auteurs, des dessinateurs, des libraires, des éditeurs, des présidents de musées aussi, etc., des journalistes aussi, on a même des podcasteurs, des instagrammeurs, de nous donner leurs 10 BD préférées des 25 dernières années. Souvent, ils nous ont détestés pour cette demande. Et on a additionné ces 10 meilleurs BD préférés de chacun. On a eu 200 réponses au total. Et on les a compilés. Et du coup, ça a donné ce classement. Donc ce top 100, il a d'abord été disponible en ligne sur le site du Nouvel Observateur. Puis, avec pour chaque album, une chronique, etc. Puis, on en a fait ce hors-série dans lequel il a été accompagné d'une première partie consacrée à l'histoire de la BD. Après, il y a le top 100, et après, en dernière partie, on a une analyse du top 100 et un peu une analyse de ce qui est devenu la BD au 21e siècle. Alors, rassurez-vous, on n'a pas fait une frise avec toutes les dates pour l'histoire de la BD. On a fait des focus sur des grands sujets, etc., pour que ça soit le plus agréable à lire et pas avoir l'impression d'avoir un livre d'histoire sur la BD. L'histoire de la BD, alors, ça ne pouvait pas plus me ravir, moi, à titre personnel, puisque je suis, vous allez rire au bout d'un moment, je suis aussi passionné par l'histoire de la BD. Je suis un homme de passion, décidément. Donc, une passion qui remonte à la découverte par hasard, lors d'une visite en famille, du château de Saumur, dans le Maine-et-Loire, d'un surprenant tableau. Le voici. Alors, le miracle des billettes, c'est son nom. C'est une gouache sur parchemin de 77 cm sur 55 cm. Qui date de la fin du 15e, début 16e. Et pourtant, à première vue, on a l'impression d'avoir une planche de bande dessinée moderne. Elle est composée de 9 cases, certaines sont dédoublées, réparties en 3 bandes, en 3 registres. Chaque case est séparée de ses voisines par un cadre, prenant la forme ici, c'est quand même un peu classe, de colonnes à chapiteaux, qui s'accompagne d'une légende écrite en français relatant chaque scène. Donc les personnages, quant à eux, sont parfaitement reconnaissables d'une case à une autre. Donc probablement consciente de l'intérêt qu'elle a su susciter chez moi, la guide, à l'époque, se lance et me dit « c'est l'une des premières BD de l'histoire ». Mais alors, quelle est vraiment la première BD de l'histoire ? Alors je vous le demande, et pour rendre un peu ludique, je vous ai fait un petit quiz, merci Jean-Pierre, hein. Donc quelle est la première BD de l'histoire ? Alors le miracle des billettes, bon, ce serait facile, mais bon, pourquoi pas, ce serait un peu évident. Les dessins de Lascaux, un recueil d'Okuzai au Japon, une blague suisse pour Goethe, et comme je complique, j'en ai 8. La première scène avec des bulles, Tintin au pays des soviets, alors ceux qui répondent ça, c'est ceux qui pensent qu'il n'y a rien avant Tintin et rien après Tintin, ça, il y en a certains, c'est... Aucune des 6 premières, ou alors Obi-Wan Kenobi, parce qu'à chaque fois qu'on fait une blague avec qui veut gagner des millions, on est obligé de mettre Obi-Wan Kenobi. Est-ce que vous avez des idées ? Non ? Sinon, réponse dans quelques minutes, hein, si jamais. Ceux qui ont lu le magazine, non, ça n'a plus le droit.
Je mets un billet sur D.
La D, très bien. Voilà, c'est ça. Et ben, on revient là-dessus après. Donc revenons donc d'abord au miracle des billets. Donc le professionnel qui est en moi est revenu à la charge quelques mois après. Je suis allé voir, les rencontrer et discuter avec la conservatrice du musée du château de Saumur, qui est heureuse de parler d'une de ses œuvres, mais qui rapidement, je la sens un peu gênée. Elle me parle d'un objet saisissant, une très belle œuvre, mais très problématique, à prendre avec des pincettes. De fait, le miracle, dont la conservatrice ne connaît d'ailleurs ni l'auteur ni le commanditaire, c'est un récit chrétien antisémite et anti-judaïste. Donc c'est vrai que, bon, comme première BD, c'est moyen. Il s'inspire d'un épisode qui s'est survenu dans les années 1290, pardon, dans le quartier des Billettes à Paris. Donc une femme qui va à l'église, qui reçoit une hostie, et qui va le vendre à un usurier juif pour récupérer une robe qu'elle lui a prêtée, qu'elle lui a mis en gage. Et lui, le prêteur juif, s'en prend alors violemment à l'hostie, c'est-à-dire qu'il va la transpercer, la fouetter, la brûler, etc., avant de l'acheter dans l'eau bouillante. L'hostie saigne, mais résiste, miraculeusement, à la profanation. Mais bon, revenons à la question initiale, est-ce que le tableau peut-il être une bande dessinée ? Est-ce que la bande dessinée peut dater du Moyen-Âge ? Alors que moi, j'ai toujours appris, vous me direz vous, y compris par ma prof de français au lycée, que la bande dessinée vient des comic strips américains, et donc le fait que dans les journaux américains ça soit en bande, c'est comme ça qu'on a appelé les bandes dessinées. Et donc c'était dans les journaux et pas du tout sur des planches entières comme ça. Donc, j'insiste auprès de la conservatrice qui, elle, préfère Beauté en touche, elle ne connaît pas l'histoire de la BD, et elle refuse d'affirmer qu'elle posséderait peut-être une des premières BD de l'histoire. Je me suis donc tourné vers les... vrais connaisseurs, les chercheurs de la BD, car oui, il y a des chercheurs de la BD. Depuis les années 60-70, ils se sont penchés sur l'objet BD, car avant ces années-là, la BD était encore largement considérée comme de l'enfantillage, dédaignée par les chercheurs. Assez rapidement, il y a deux conceptions radicalement opposées qui vont arriver chez les chercheurs. La première thèse repose sur une vision minimaliste, et elle n'autorise le terme de BD que pour certaines œuvres, qui ressemblent à la BD des années 60 et 70, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher dans leur enfance quels sont les ouvrages qui correspondent aux BD qu'ils lisent actuellement. Et donc, évidemment, une BD avec des personnages, des dessins, des personnages qui s'expriment avec des bulles, qu'on appelle phylactères si on veut faire scientifique, etc., évidemment. Et ils vont remonter donc, dans leur enfance, et leur enfance, c'était les comics américains, et donc ils vont essayer de rechercher quelle pouvait être la première BD avec des bulles. Et assez rapidement, ils vont tomber sur cette BD. C'est une page très précise du Yellow Kid, un comics américain réalisé le 25 octobre 1896 par le cartooniste américain Richard Felton Outcome. L'auteur utilise donc la première fois, le croit-on à l'époque, le phylactère. Donc spoiler, je casse le suspense, c'est même pas le premier à avoir utilisé la bulle. D'autres chercheurs, au contraire, vont avoir une vision maximaliste, à l'inverse. Donc comme Gérard Blanchard, qui publie en 1969 la bande dessinée Histoire des histoires en images de la préhistoire à nos jours. Et vous l'avez deviné, pour lui, la BD remonte bien plus tôt que les comics américains, puisqu'il intègre la colonne Trajan, que vous voyez ici à Rome, mais aussi la tapisserie de Bayeux, ainsi que certaines images d'Épinal. Et il appuie son analyse sur une seule caractéristique de la BD, la coexistence entre le dessin figuratif, qui est dessiné, et le texte, ou du moins la présence de symboles, qui accompagne le dessin. Et remonte donc naturellement jusque les dessins de Lascaux. remontant, oui, parce qu'il y avait des symboles abstraits, j'ai découvert ça, autour des dessins à Lascaux. Remontant aussi loin, il fait de fait rentrer dans la BD les vases grecs, les chemins de croix, des églises, des tapisseries du Moyen-Âge, et donc des œuvres comme Le Miracle des Billettes. Mais qui ne serait pas, du coup, pardon, la première BD de l'histoire ? Cette analyse, faite dans les années 60-70, elle permet de légitimer la bande dessinée. C'est-à-dire qu'en faisant rentrer des œuvres comme Lascaux, comme la tapisserie de Bayeux, etc., la bande dessinée, ça leur permet de dire que c'est de l'art, en fait. Et donc, quelque part, que c'est plus juste des dessins pour enfants, et ça permet de remettre tout ça dans une histoire beaucoup plus globale, et donc d'en rendre le sujet plus sérieux. Alors, l'idée peut paraître amusante, mais moi, la première fois que je lis ça, je lis Blanchard, je me dis, bon, entre Lascaux et Tintin, est-ce que vraiment on peut dire qu'on a de la BD avec Lascaux ? Catégorique, hein, l'historien et théoricien de la bande dessinée Thierry Gronstein, qui s'est vraiment penché là-dessus, dénonce lui complètement l'approche de Gérard Blanchard et l'hypothèse Lascaux. Pour lui, ce point de vue si englobant, je le cite, a pour inconvénient de dissoudre la spécificité de la bande dessinée dans une catégorie aussi large, celle des histoires en images, voire des images tout court en fait, catégorie si large qu'on ne sait plus ni où elle commence ni où elle finit. Or, écrit-il, toutes les images ne sont pas nécessairement narratives. Une image isolée, une caricature par exemple, peut suggérer une situation mais ne pas dérouler un récit. Et des images multiples mises bout à bout ne forment pas forcément une histoire non plus. Si par exemple je prends un album Panini de football, j'ai plein d'images côte à côte, mais ça ne fait pas une histoire. L'écrivain et scénariste de bande dessinée Benoît Peeters, que j'ai pu rencontrer, qui est également historien de la bande dessinée et spécialiste de Tintin, qui a fait 100 fois plus de conférences que moi, y compris disponible en podcast, que je vous conseille d'écouter parce qu'il est passionnant, partage tout à fait le point de vue de son confrère, et lorsque je l'interroge, il me dit, je l'interroge sur le miracle des billettes évidemment, il me dit qu'on pourrait très bien être tenté de faire remonter en effet les origines de la BD très très loin, mais alors pourquoi plus le miracle des billettes qu'en effet la colonne Trajane ou l'art égyptien ? Ça n'a aucune raison de s'arrêter à un endroit précis. Si on intègre selon lui le miracle des billettes, et ben en fait on remonte jusqu'à Lascaux. Pour trouver la première bande dessinée, je me dis alors qu'il faudrait trouver une définition claire de la BD. Alors malheureusement, c'est toujours pareil, l'affaire n'est pas si facile, puisque quel critère faut-il garder ? Est-ce qu'on garde le critère du phylactère ? Et donc, ce serait a priori Yellow Kid, selon les études de l'époque. Mais quid des BD muettes, y compris actuellement, il y en a, donc du coup, ça ne serait pas considéré comme de la BD. Si on garde que les objets de fiction, donc les BD qui racontent des histoires, dans ce cas-là, on se passe de toutes les BD dites journalistiques, autobiographies, biographies, etc. Le risque, selon Peeters, c'est que chacun se fasse un peu de la bande dessinée sa propre définition à partir de ce qu'il aime bien. Et de fait, en fonction des œuvres qu'il veut ou pas inclure ou exclure dans son histoire de la bande dessinée. Bon. Si Lascaux n'est pas la première BD, pas plus que Tintin, puisqu'on a vu qu'il y avait des BD avant le Yellow Kid, mais aussi Bécassine ou les comics américains, quel pourrait être alors le point de rupture, le déclencheur, l'œuvre qui incarnerait le basculement des images, voire des histoires en images, si on peut considérer que la tapisserie de Bayeux raconte une histoire, à la vraie bande dessinée. Et c'est cette œuvre que vont découvrir Thierry Gronstein et Benoît Peeters dans les années 80-90, en s'inspirant des travaux d'un Américain, ce qui est assez rigolo parce qu'il va un peu jouer contre son propre pays, cet Américain. Et cette bande dessinée, selon Peeters et Gronstein, c'est une œuvre potache, réalisée par un jeune Suisse, qui non seulement va inventer quelque chose de nouveau, mais va théoriser son invention, preuve qu'il a conscience de pratiquer un art nouveau. Et c'est ça le critère essentiel selon Benoît Peeters. Donc ce jeune Suisse s'appelle Rodolphe Töpfer. Il est fils et peintre d'un caricaturiste réputé, et il est né en 1799. Tout naturellement, Töpfer s'imagine suivre l'héritage paternel et se lancer dans la peinture. Malheureusement, le jeune homme est atteint d'une maladie oculaire dégénérative, probablement des corps flottants dans les yeux, et ça anéantit ses rêves de peinture. Il se tourne alors vers l'enseignement, il devient sous-maître de latin et de grec avant d'ouvrir, grâce à la dot de sa femme quand même, sa propre pension en 1824. Töpfer y accueille entre 30 et 40 élèves, en majorité étrangers, et il y pratique une éducation ouverte sur le monde. Il va multiplier avec ses élèves des excursions en montagne, dont il revient avec des récits de voyage, mêlant anecdotes et surtout des dessins, dans lesquels il se met même parfois lui-même en scène. Puis, il passe à la fiction et se met à dessiner, durant les longues soirées d'hiver en Suisse, ce qu'il appelle des histoires folles pour amuser ses élèves. Et en guise d'histoire folle, Rudolf Töpfer dessine en 1827, il a à peine 28 ans donc, les aventures d'un personnage haut en couleur, Monsieur Vieux-Bois, qui s'éprend d'une femme à peine entrevue par la fenêtre, on le voit sur cette planche-là, que l'auteur n'appelle jamais autrement que l'objet aimé. Réalisé sur un petit carnet, donc j'en ai un, le même, dans le même format, mais évidemment une édition beaucoup plus récente. J'avais, si vous trouvez l'édition de l'époque, je suis preneur évidemment, mais elle est à plusieurs milliers d'euros, je crois. Donc c'est un format oblong, allongé un peu à l'italienne, on dirait maintenant. Et donc il fait un manuscrit qui réunit environ 200 dessins, qui semblent tracés, on a l'impression que c'est tracé d'un seul trait, d'un seul coup de crayon. C'est sur une seule bande, divisé pardon, souvent en deux ou trois cases, et avec du texte en dessous. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de bulle dans les dessins de Töpfer. D'autres ouvrages avec des personnages tout aussi caricaturaux suivront, comme Monsieur Jabot, Monsieur Pencil, dont il raconte à chaque fois les travers. On a l'impression, moi, quand je les ai lus les premières fois, on a l'impression de lire du Molière en BD, en fait. Et c'est très moderne. L'auteur joue déjà, en fait, avec les codes de la BD, le texte répondant aux images et vice-versa. Il s'amuse même à changer la taille des cases en fonction de ce qu'il veut raconter. Elles sont tantôt minuscules, comme là, puisque chacun lève son verre, tantôt sur une double page, et il pratique aussi le comique de répétition. Enfin, pour la première fois de l'histoire, l'auteur conçoit son œuvre comme un ensemble réuni des manuscrits dans un seul album, quand les œuvres de ses prédécesseurs ont pour seule unité souvent la feuille dans les journaux. Donc c'est extrêmement moderne, évidemment. Certaines planches sont éblouissantes, estime ainsi Benoît Peters lorsque je l'ai rencontré, et on voit déjà, explique-t-il, la capacité chez Töpfer à musicaliser sa bande dessinée. Et il n'hésite pas même à me parler d'un petit miracle Töpfer. C'est rigolo, après le miracle des billets, c'est le miracle Töpfer. Töpfer, lui, il n'imagine même pas vendre ses histoires au départ. Tout juste consent-il à ce qu'un de ses amis, un camarade d'école qui était devenu tuteur des enfants du duc de Weimar, le montre à une sommité de l'époque, qui est alors âgée de 80 ans, le grand Johann Wolfgang von Goethe. Donc on retrouve la blague suisse pour Goethe. Donc Goethe, à l'époque, il est au crépuscule de sa vie, donc 80 ans, je vous le disais, et surtout il déteste, mais alors il déteste les caricatures, qui sont légion à l'époque dans la presse européenne. Donc c'est un peu mal barré pour Töpfer, et pourtant il va adorer le petit livre de Töpfer. Il lance, c'est vraiment trop drôle, c'est étincelant de verve et d'esprit. J'ai pas fait la voix de Goethe, je suis désolé. Mais ce qui fait du coup probablement de Goethe le premier critique de bande dessinée. Notre ancêtre à tous pour le nouvel adus. Goethe a toutefois du mal à décrire ce qu'il découvre, mais imaginez un peu quand même que jamais à l'époque on avait eu dans une même œuvre un même personnage répété plusieurs dizaines, centaines de fois sur environ 100 pages. Ça n'existe pas, ça n'avait jamais eu lieu. Goethe parle ainsi du personnage de Töpfer comme d'un fantôme qui reproduit son individualité sous les formes les plus variées. Bon, on est sur du Goethe quand même. Mais il faut encore imaginer qu'on n'a jamais eu un personnage récurrent dans une seule œuvre. Si bien que Töpfer a même dû se spécialiser en, alors là je vais essayer de le sortir en une seule fois, en physiognomonie, c'est-à-dire qui est spécialisé dans l'étude des traits, des postures, des mimiques des personnages et des expressions du visage. Et elle est là, selon Benoît Peters, la rupture avec Töpfer, c'est que Goethe, en découvrant les manuscrits de Töpfer, voit qu'il y a une invention. Ce que nous, on ne peut plus voir maintenant, puisque quand on voit une BD, ça paraît naturel. En outre, pour la première fois, les images ne sont plus séparées les unes des autres dans le temps ou dans l'espace, comme c'est le cas pour les chemins de croix, pour la tapisserie de Bayeux également, puisque Töpfer va inventer et beaucoup utiliser la séquentialité. C'est-à-dire que, autrement dit, il va raconter une scène avec plusieurs dessins pour raconter la même scène, ce qui ne se faisait pas avant. Rassuré par Goethe, Töpfer consent à publier les histoires de Monsieur Jabot en, imaginez un peu, 500 exemplaires à l'époque. Et on a là une caractéristique supplémentaire de la BD, c'est qu'elle est reproduite, distribuée en plusieurs exemplaires, ce qui n'est pas, on est tous d'accord là-dessus, je pense, le cas pour Lascaux ou la colonne Trajan. Et ce n'est rendu possible qu'avec l'invention et l'amélioration de l'imprimerie, puisque pour imprimer des dessins en plus, il faut évidemment que l'invention soit améliorée. Preuve supplémentaire qu'il y a rupture avec Töpfer, c'est que le Suisse, alors déjà, il invente quelque chose, et en plus, il va théoriser lui-même sa propre invention. Donc, il signe son œuvre de ses simples initiales, RT, et puis, anonymement, il va en écrire une critique littéraire. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et cette première critique, élogieuse, hein, évidemment, il va pas... il résume parfaitement quand même l'idée de ce qu'est la BD. C'est-à-dire qu'il écrit « Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose d'une série de dessins. Chacun de ces dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins sans le texte n'auraient qu'une signification obscure. Et le texte sans les dessins ne signifierait rien. » Et il écrira même plus tard « Il s'agit d'une invention, d'une découverte, tout au moins d'un de ces petits riens, aussi gros que d'autres. » Avec quoi, aujourd'hui, on change à tout moment la face de l'univers et l'avenir de l'humanité. Modeste, hein, Topfer, à la fin. Mais en résumé, Topfer nous dit quand même « J'ai inventé quelque chose ». Ce qui permet à Peters, Benoît Peters, dont je parlais tout à l'heure, de clore définitivement la querelle des origines entre Outco et Topfer au bénéfice du Suisse. Hop, donc il a gagné. Voilà. Puisque, à l'inverse de Topfer, il n'y a pas eu d'Eureka chez Outco, c'est-à-dire que Outco, l'américain, n'a pas eu conscience d'inventer quelque chose de nouveau avec ses bulles dans le Yellow Kid. Et de fait, il n'invente rien de nouveau puisque le quelque chose existe depuis 60 ans déjà. Et durant ces premières années, la BD de Topfer, donc les premières BD de Topfer, que lui appelait littérature en estampe, c'est quand même encore plus classe que BD, va faire des émules, c'est-à-dire que Topfer, il est piraté, il va être copié en France, il y a des gens qui vont recopier les albums en entier avec des dessinateurs plus mauvais que lui en plus, enfin, selon lui. Et d'autres vont aussi s'en inspirer pour créer des œuvres nouvelles. Donc son cousin lui écrit même un jour, de son vivant, Topfer quand même, « Vous avez créé le genre et vous n'avez pas encore vu le dernier de vos imitateurs. » Benoît Peters, cinglant, mais finalement KO l'américain Outco, en disant « Ce que me sidère, c'est que la thèse du Yellow Kid ait pu si longtemps s'imposer alors que non seulement il y a Topfer, mais il y a de la bande dessinée tout au long du 19e, de 1830, la création de la première BD par Topfer, jusque à Outco, il y a 60 ans de bande dessinée. Il y a des Français, des Anglais, des Allemands et des bandes dessinées qui vont circuler, qui ont été traduites, ce qui était plus facile à traduire puisqu'il n'y avait pas à traduire les dessins, donc on traduisait juste le petit texte en dessous, et qui sont arrivés jusqu'aux États-Unis, où il y a même eu des versions piratées de Topfer aux États-Unis. Donc au moment du Yellow Kid, il y a donc déjà une culture BD qui est en place. Bon, nous avons la première BD, voilà, c'est déjà pas mal. Très tardivement, il faut savoir que la Suisse revendiquera ce lien avec Topfer, puisqu'ils vont créer un prix Topfer de la BD en 2015. Seulement 2015, c'est-à-dire que 200 ans après. Alors, quid du reste de l'histoire? Je fais une petite pause. Excusez-moi. Donc Topfer, on l'a vu, va faire des émules d'abord en Europe. Et oui, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc c'est le papier qui se déplace, donc ça prend beaucoup plus de temps. Puis aux États-Unis. Là, la BD va rencontrer un autre phénomène, celui de la presse de masse, sous l'impulsion des grands manias de la presse, dont les deux plus célèbres sont sans doute Joseph Pulitzer, qui donnera son nom au prix Pulitzer, et puis William Randolph Hearst, qui lui va servir de modèle au Citizen Kane de Orson Welles. Donc ils vont se tirer la bourre pendant des années, ils vont se voler leurs dessinateurs, ils vont se lancer des procès, etc. En 1895, Pulitzer va recruter Richard Felton Outco, dont je parlais tout à l'heure, qui publie le premier épisode de sa série, qui s'appelle Hogan's Alley, donc en 1895. Et on voit un petit personnage au second plan, en bas à droite, si vous le voyez, avec sa chemise de nuit, donc qui a seulement deux dents, les oreilles décollées, pardon, le crâne chauve, et qui va devenir donc le héros de la série dont on parlait tout à l'heure. Et même l'un des héros les plus improbables, parce que quand même, il n'a pas le physique du héros au départ, il va devenir le Yellow Kid. Pourquoi Yellow? Mais en fait, c'est la couleur que va donner à un moment Outco à la chemise de nuit, du Yellow Kid. Chemise de nuit sur laquelle il va donc commencer à écrire du texte, des paroles, jusqu'au jour où il va donc utiliser le procédé, pardon, je suis allé trop vite, de la bulle, mais qu'il n'a pas inventé, puisqu'en fait on en trouve dans des œuvres religieuses, il y en a même sur des statues, les phylactères, les bulles, elles viennent de là au départ. On en retrouve dans la caricature, donc au 17e, etc. Et on en a même retrouvé dans certaines pages de BD, alors j'ai fait moi toutes les pages de la revue qui s'appelait Le Rire, et on en retrouve, alors là vous voyez, en bas à gauche, la dame, il y a une bulle à côté d'elle. Là, pareil, tout en haut à droite, on a une bulle aussi, et ici en bas à droite. Donc, ça veut dire que, le Yellow Kid n'est donc ni la première BD, ni même la première BD à utiliser la bulle. J'en ai aussi une, pardon, dans Le Chat Noir, qui est ici, qui est un recueil des dessins dans la revue Le Chat Noir, il y a aussi une page où il y a une bulle, et qui date de 2-3 ans, je crois, avant le dessin d'Aoudko. Donc, ni la première BD, ni la première BD de l'histoire a utilisé les bulles pour un, hop, le Yellow Kid. Mais le succès de la série, intimement lié au héros, donc, qui est parfaitement identifiable, est indéniable quand même. C'est-à-dire que ça va exploser. Les ventes des journaux explosent, et là, donc, la série va vraiment avoir un succès retentissant. À tel point qu'il suscite les convoitises de Hearst, donc l'autre mania de la presse, qui va débaucher le dessinateur. Un acte de guerre entre les deux manias de la presse qui vont se multiplier pendant des années avec des pratiques peu scrupuleuses, à tel point qu'on finira par utiliser le terme de yellow journalism, donc le journalisme jaune, du nom du Yellow Kid, pour désigner le type de presse à scandale aux États-Unis qui sont peu soucieuses de l'éthique et qui sont uniquement commandées par la recherche de profit. Mais alors, faut-il jeter le Yellow Kid avec l'eau du bain? C'est la question que je me posais après, si finalement il est ni la première BD, ni la première BD avec des bulles. Alors non, pas du tout, me répondent d'une même voix Benoît Peters et Thierry Grunstein, puisqu'ils ils disent que Aoudko est talentueux et qu'il a eu un rôle d'accélérateur dans l'émergence de la bande dessinée américaine. Le Yellow Kid et son succès vont permettre d'ouvrir une décennie magique qui permet d'aller jusqu'au Little Nemo, alors pardon, là il réutilise la bulle, le Little Nemo est là, pardon, de Winsor McCay. Donc les deux historiens estiment même que le Yellow Kid, c'est une seconde naissance de la bande dessinée. Ça permet de régler le problème, comme ça il y en a un qui est premier et qui est deuxième. C'est la naissance d'un média de masse, d'un phénomène de société, parce qu'on a des objets Yellow Kid, c'est la première fois qu'il y a, alors, je sais plus, je crois, des boîtes d'allumettes, des choses comme ça, des jeux pour enfants Yellow Kid. Et c'est aussi l'invention d'un métier, puisqu'en fait les dessinateurs, on l'a vu, deviennent des signatures, au même titre que les grandes plumes journalistiques. Donc le procédé de la bulle, c'est là que j'ai un échange, voilà. Aoudko va le réutiliser, donc dans d'autres pages du Yellow Kid, et il va se généraliser, même si en France, la bulle n'arrive pas tout de suite, il y a un peu de résistance, puisque, comme l'écrit le spécialiste de la BD Christian Stubler, si on achète des revues pour les chères têtes blondes, c'est pour qu'elles lisent du texte. C'est le texte qui est éducatif, pas pour qu'elles ne regardent que les images. C'est dire, à l'époque, la mentalité. Or, la bulle permet justement de réduire le texte, d'accélérer la lecture, ce qui permet à la BD de devenir un média populaire, au sens noble du terme, et accessible au plus grand nombre. Et la BD va de nouveau voyager, notamment jusqu'au Japon. Car on n'a pas encore parlé du manga, et soyons honnêtes, au cours de mes recherches, j'ai eu un petit peu peur quand même, puisque je me suis rendu compte, en penchant sur le sujet, que le maître de l'estampe, donc Okuzai, au Japon, avait publié en 1814 plusieurs recueils qui s'appelaient des Okuzai manga. Et donc, si le manga date de 1814, pardon, je me suis posé la question, est-ce que l'Asie avait inventé la BD avant la Suisse? Alors non, car au Japon, le terme manga à l'époque, qui existait déjà avant que Okuzai le popularise, désigne à l'époque une autre pratique artistique. En fait, mot à mot, manga, ça se traduit par image dérisoire, et à un moment, tout a été un peu manga dans l'histoire du Japon. Et ce que Okuzai publie, sans faire offense à celui qu'on surnomme le vieux fou du dessin, ce sont des carnets de croquis, en fait. Il n'y a pas de séquentialité, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration, donc on n'est pas sur de la BD. Le manga au sens BD, au sens actuel du terme, arrive plus tard au Japon avec l'ouverture contrainte du Japon par les Américains à la force des canons, donc 1854, et puis avec l'arrivée de la culture occidentale dans le Japon de l'ère Meiji, dont la caricature et la BD. Donc il y a des revues et des dessinateurs occidentaux qui arrivent au Japon, qui vont se mettre à vendre ce qu'ils voient des États-Unis et de l'Europe, et ils publient leurs œuvres jusqu'à ce qu'un Japonais, qui s'appelle Rakuten Kitazawa, qui lui est spécialiste de la peinture traditionnelle japonaise, mais qui est également inspiré des BD européennes et américaines, se lance dans sa propre série qui s'appelle Tagozaku et Mokube Visit Tokyo. Et il raconte les mésaventures de deux rustres qui vont découvrir la capitale japonaise. Et dedans, il publie notamment donc cette page, qui en fait est donc une des pages sur les deux personnages, qui reprend le motif de l'arroseur arrosé. Et donc ce serait sans doute ça, la première BD japono-japonaise. Pourquoi retenir Kitazawa? Parce que c'est le premier à avoir une série régulière, avec des personnages qui vont revenir régulièrement. Et puis c'est aussi le premier à se définir lui-même comme un mangaka, c'est-à-dire auteur de manga, ce qui n'est pas le cas avant. Et il est considéré maintenant, historiquement, comme le grand-père de la BD japonaise, le grand-père du manga. Donc voilà, je vous ai fait les débuts de la BD dans les trois pôles majeurs du 9e art, donc l'Europe, les États-Unis et maintenant l'Asie et le Japon. Alors je vais accélérer un petit peu pour le reste de l'histoire, parce que sinon on en a pour plusieurs heures. Donc si j'accélère un peu, quelques années plus tard, au début des années 30, en Europe, va s'imposer la BD qu'on connaît tous et qu'on appelle la BD franco-belge. Or, comme l'écrit un de mes collègues donc, dans leur série du Nouvel Ops, collègue qui n'épargne pas d'ailleurs au passage Hergé, hein, puisque Hergé a des côtés bien détestables et donc il n'est pas épargné dans l'article, la BD à l'époque en fait était plutôt belgo-française que franco-belge. Ce sont en effet les auteurs belges qui mènent la danse avec Hergé, donc né à Etterbeek près de Bruxelles, qui inventera un certain Tintin, je crois qu'on n'a pas besoin trop de le présenter, même si quand on le voit comme ça, on a du mal à le reconnaître quand même. Mais il y a également, dans la génération après-guerre, donc il y a les prolifiques Franquins avec Gaston Lagaffe, Maurice avec Lucky Luke, ou alors encore Peyo, Edgar P. Jacobs qui a fait Black et Mortimer, ils sont tous belges. Et les éditeurs ne s'y trompent pas, puisqu'en fait ils vont tous s'installer en Belgique. Alors comment expliquer la prédominance de la Belgique sur la petite Belgique par rapport à la France ? Mon collègue a interrogé un spécialiste d'histoire contemporaine, Philippe Delisle, qui dit qu'en fait la Belgique aurait bénéficié d'une position périphérique de la production littéraire face au centre parisien, ce qui rendait plus facile l'expérimentation de formes nouvelles. En gros, Paris était trop snob, et donc c'est dans l'ombre que la BD se développe. Ajoutons au passage que la Belgique bénéficie aussi d'un ardent promoteur, l'Église catholique, qui va s'emparer de la BD en réaction aux comics américains qui sont jugés trop adultes et pas assez moralement acceptables. Donc à l'époque, outre-Atlantique, c'est en effet les super-héros, assoiffés de justice, qui ont été inventés sous la plume d'immigrés juifs américains. Hop, voilà le premier Superman, je crois. Qui créent donc des surhommes de papier, qui distribuent les coups de poing, qui terrassent les méchants, comme des champions des opprimés. Une réponse évidente à la situation catastrophique de la communauté juive en Europe à la même époque, puisqu'on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et puis pendant la Seconde Guerre mondiale. À quel point même que Joseph Goebbels enrage une fois en criant « Superman est juif ». En réaction, du coup, en Belgique, les défenseurs des valeurs morales, et donc très conservatrices, voire un peu racistes, à l'époque, vont promouvoir la BD moralement acceptable. Donc c'est par exemple l'anticommuniste et admirateur de Mussolini, quand même, l'abbé Norbert Vallès, qui va être le mentor d'Hergé, et qui va l'inciter à envoyer Tintin au pays des soviets pour y pourfendre le communisme. Donc je disais belgo-français, parce qu'il y a quand même des liens avec la France, il y a quand même des ponts entre les deux pays. On peut notamment penser, c'est le quart d'heure à l'eau de rose d'histoire d'amour, à Robert Velter, dit Rob Vell, le dessinateur français qui est marié à une Belge, qui s'appelle Davine, avec qui il va inventer le personnage de Spirou, sur une commande de Jean Dupuis, l'éditeur Jean Dupuis. Autre exemple, c'est dans la première agence de BD qui a été fondée à Bruxelles que se rencontrent deux Français, un certain René Goscinny et un certain Albert Uderzo qui inventeront après Astérix. Le retournement entre les deux pays, là où on va pouvoir commencer à parler de franco-belge, a lieu plus tard, donc dans les années 60-70, avec le carton de l'hebdomadaire Pilote, justement lancé par Uderzo et Goscinny, et où vont se déployer des auteurs comme Gottlieb ou Claire Bretéché, que nous on connaît bien au Nouvel Observateur, parce qu'elle a fait longtemps la quatrième de couverture du Nouvel Observateur. La BD devient plus adulte à partir de là, et après mai 68, même Pilote se fait dépasser, les stars du journal créent l'écho des savanes, qui va détourner les codes enfantins pour amuser les adultes. Et on le voit, c'est écrit tout en haut à gauche, c'est réservé aux adultes. Ce qui est à peu près le message idéal pour faire vendre aux enfants. Puisque les enfants vont évidemment pouvoir l'avoir. Puis viennent les magazines comme Fluide Glacial ou le spécialiste de SF Métal Hurlant, voilà, qui vont définitivement ringardiser les Belges de la première génération et même les Français de la génération précédente. Dans ces années-là, la BD va s'institutionnaliser aussi, puisqu'en 1974 est créé le Festival d'Angoulême. Donc on ne parle pas trop longtemps vu les scandales actuels et depuis quelques années les multiplient. Et puis maintenant il y a Marley, hein, donc. mais surtout, donc, comme je le disais, à cette époque, dans les années 70, la BD va faire son entrée dans les amphithéâtres, c'est ce que je disais au départ. Il y a des chercheurs qui ont commencé à soutenir des thèses sur la BD, ce qui va aider à légitimer la BD. Donc depuis les années 70, il y a eu quand même près de 100 thèses sur la bande dessinée qui ont été publiées. Mais c'est depuis les États-Unis et une décennie plus tard encore, je refais le pote, pardon, que la BD va décrocher définitivement ses lettres de noblesse avec un album depuis vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Est-ce que vous avez une idée de quel album c'est ? Spécialiste peut-être ? C'est Maos d'Arch Figelman, dans lequel l'auteur, qui est fils d'anciens déportés, raconte le calvaire de ses parents à Auschwitz et à la fuite après à la sortie d'Auschwitz, sans épargner donc les pires horreurs nazies, mais en utilisant le procédé disneyien des animaux anthropomorphes. C'est-à-dire que les juifs sont des souris, Maos veut dire souris en allemand, les nazis sont des chats et les polonais sont des cochons, par exemple. Il y en a plein d'autres, tous les personnages sont en fonction de la nationalité voilà, ou de la religion. L'œuvre que, alors au départ, personne ne veut l'éditer, c'est-à-dire que Arch Figelman va devoir créer un magazine pour auto-éditer Maos, que personne ne veut, et finalement après il est réédité sous la forme de deux tomes séparés. Donc c'est une audience au départ qui est très limitée, parce que bah, l'auteur trouble, on ne sait pas trop à qui il s'adresse en fait. Est-ce qu'il s'adresse aux enfants avec une œuvre aussi sombre ? A priori non, et donc on ne sait pas à qui est destiné l'album. Mais la critique, elle, est dithyrambique. On a, dès 1985, un critique qui écrit que Spiegelman représente tout simplement le meilleur de son art. Voilà. Et donc, il s'y est pas trompé, ce critique, puisque 7 ans plus tard, Spiegelman est le premier, et jusqu'en 2025, c'était le seul, à recevoir un prix Pulitzer, du nom du mania de la presse dont on parlait au début, qui récompense normalement donc, les articles journalistiques, hein, les magazines, je ne suis pas prêt d'en avoir un, mais voilà, les agences de presse, mais aussi en parallèle des romans, des biographies et de la poésie. Et preuve de l'embarras du jury à l'époque, ben, en fait, il n'y a rien pour la BD, et comme ils ne savent pas ce que c'est, ben, ils vont créer un prix spécial. Donc il y a un Pulitzer prix spécial qui ne correspond pas aux autres critères et aux autres catégories qui existaient à l'époque dans le prix Pulitzer. Donc cette œuvre qui est inclassable, totalement en décalage avec les traditionnels comics américains, puisqu'on n'a pas de super-héros, etc. Et ben pour la définir, on va commencer à utiliser un terme qui n'est pas toujours apprécié par tout le monde, de roman graphique. Donc le roman graphique, qui est une traduction de l'américain graphic novel, qui a été inventé par Will Eisner dans les années 70. Will Eisner, qui va lui donner son nom au prix Eisner, qui est le plus grand prix de BD aux États-Unis, donc pour récompenser toutes les BD du 9e art. Donc nous, au Nouvel Ops, le terme de roman graphique, ça fait un peu débat. On a même un article dans leur série pour peser le pour ou le contre de cette appellation. Donc nous, c'est ça. Mais en France, on a une maison d'édition qui va volontairement, elle, rompre avec la BD traditionnelle et le carcan du 48cc. Alors si le 48cc ne vous dit rien, c'est l'album cartonné en couleur de 48 pages. Voilà, 48cc. Et cette maison d'édition, c'est l'association qui est fondée en 1990, avec des pointures comme David B., Lewis Trondheim ou Jean-Christophe Menu. Et à l'époque, la BD alors, traverse une forme de crise avec l'effondrement rapide, très rapide, on reconnaît un petit peu ça maintenant, des ventes en kiosque de la presse généralisée. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même des fermetures de nombreux titres. Juste la liste pour vous rendre compte, L'Écho des Savanes s'arrête en 82, Métal Hurlant en 87, Le Journal de Tintin en 88, Pilote en 89. Donc c'est l'hécatombe de tous les magazines BD de l'époque. La plupart en tout cas. Donc pour se rassurer, les éditeurs, eux, vont se concentrer sur des séries et des BD. Oui ?
Mais L'Écho des Savanes, c'est revenu,
non ? Exactement. L'Écho des Savanes est revenu, Métal Hurlant est revenu, Le Journal de Tintin, non. Et Pilote, je crois pas, non. Voilà, il y a eu des trous. Et c'est vrai que pendant cette décennie-là, il y a une chute globale. Donc pour se rassurer, ce que je disais, les auteurs se concentrent sur des titres qu'on connaît déjà, hein, des séries bien connues, et ils acceptent plus que des produits bien commerciaux. Et du coup, ils refusent les BD plus personnelles, plus autobiographiques, plus expérimentales. Donc l'association, elle, qui au départ, donc c'est une vraie association d'auteurs qui vont se mettre ensemble, hein, c'est un statut d'association, ils arrivent en réaction. Et donc ils vont éditer des albums qui vont exploser la pagination, le nombre de pages va exploser. Ils vont privilégier le noir et le blanc plutôt que la couleur. Bon, c'est aussi pour des questions d'économie, parce que c'est moins cher d'imprimer en noir et blanc. Et les sujets sérieux, donc les autobiographies, les reportages. Et c'est dans ce terreau fertile et innovant que viendra la déflagration Persepolis, voilà, qui paraît en 2000. Donc l'album de Marjane Satrapi est un récit autobiographique sur son enfance, donc l'enfance de l'autrice, en Iran. Donc c'est un sujet qui, avec l'actualité, revient encore plus. Donc dans l'Iran des Mollahs, et puis sa rébellion à hauteur d'enfant. Hop, on n'a pas l'image, dommage, on avait une là. C'est pas grave, voilà. À hauteur d'enfant contre le régime. Donc une œuvre qui a depuis largement dépassé le million d'exemplaires vendus quand même, et qui a été adaptée en film. Donc ça me permet un peu de boucler la boucle, si je puis dire, puisque c'est justement cet album qui est arrivé numéro 1 du top 100 des meilleurs BD du 21e siècle que nous avons publié. Donc ma collègue y consacre un grand papier, hein, donc à Marjane Satrapi et à cette BD. Donc ce top 100, j'en parlais au début de mon intervention, ça révèle beaucoup de marqueurs de la BD du 21e siècle. À tel point que nous avons décidé de consacrer un article aux leçons qu'on pouvait tirer du classement, mais aussi de ce que les votants, puisqu'en fait c'est les 200 votants, ça en dit beaucoup sur ce que eux pensent de la BD. Notamment sur la place des autrices, qui a tout un passage assez intéressant sur le fait que les auteurs votent beaucoup plus pour des auteurs que des autrices. Bref, et que les femmes doivent beaucoup à leurs consoeurs, hein, si elles veulent figurer dans le top 100. Mais il y a aussi l'explosion des styles et des formats. On a donc l'avènement, ou pas, ça c'est à vous de voir, de ce qu'on appelle le roman graphique, etc. Dans les dernières pages du coup du hors-série, on a donc la troisième partie, ce que je vous disais au début. On a tenté de faire une analyse à partir du top 100 de ce qui était devenu la BD au 21e siècle. Un début de siècle qui a vu exploser le médium, hein, pour vous rendre compte, il y avait 700-800 BD vendus en 1990. Il y en avait entre 1000 et 1500 au début des années 2000. Et là, en 2024, il y en avait plus de 7000 par an. Voilà. Donc, je ne les lis pas tous, je vous rassure. C'est impossible, évidemment. Mais voilà, donc le 21e siècle et ce début du 21e siècle, c'est aussi l'avènement du jeu en BD. C'est-à-dire qu'on va commencer à se raconter en BD. Alors certes, ça date pas du tout. Alors vraiment pas du tout des années 2000. Hein, l'autobiographie en BD, ça remonte à très loin. Mais ça va s'affirmer au 21e siècle. Et preuve en est que les trois BD qui sont sur le podium du top 100, c'est trois autobiographies. Donc on retrouve en numéro 2 L'Arabe du futur de Riyad Satouf, et en numéro 3 une BD qui est beaucoup moins connue, Fun Home de Alison Bechdel. Vous connaissez peut-être le test de Bechdel par rapport à Alison Bechdel. C'est le test pour savoir si un film est vraiment macho ou pas, puisqu'en fait, si on va regarder dans un film, si les deux personnages féminins parlent entre elles, ou si les femmes ne parlent qu'à des hommes, et si quand elles parlent entre elles, elles parlent d'autres choses que des hommes qui sont les héros. Et en fait, il y a très peu de films qui, des fois, figurent dans ces classements-là. Et à côté de ça, c'est une autrice de BD. On a aussi... je parlais de l'autobiographie, donc qu'on trouve en 1, 2, 3, mais qu'on trouve aussi opposition... Alors, c'est l'autofiction, donc c'est l'autobiographie un peu fictionnelle. On les retrouve en position 4, 6 et 7 du classement, alors que les positions 8 et 9, c'est de la biographie. Donc on est quand même sur des récits de vie qui emporte le plus les votes. Au-delà du jeu, il y a la BD du réel qui prend de plus en plus de place au XXIe siècle avec les enquêtes journalistiques, les reportages, les témoignages intimes. C'est très présent dans le top, même si il y a aussi des grands absents dans le top, et notamment des femmes, puisque voilà, il y a des grandes autrices qui étaient pourtant assez connues et qui ne sont pas dans le top. Et peut-être qu'il y a trop aussi de témoignages intimes dans la BD. On a évidemment aussi l'envolée du manga au 21e siècle, même si ça reste un peu timide dans notre top 100, mais qui explose en termes de publication, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'actuellement en France, il y a plus de mangas qui sont publiés chaque année que de BD autres. D'accord ? Franco-belge et comics. Et qui explose aussi en termes de vente, puisque One Piece, Naruto, etc. sont des grands succès. Voilà, j'arrive à peu près à la fin de l'histoire de la BD, du coup à la fin de ma présentation. J'espère que l'histoire de la BD va continuer à s'écrire. Je dois dire ici quand même que j'ai pas entièrement rempli ma mission, puisque j'avais évoqué avec Béatrice, je vais un peu raconter les dessous, les secrets de fabrication de la conférence, de parler des adaptations de romans en BD. C'est une demande de Béatrice. Alors j'avais dit oui, et en même temps, difficile alors d'ancrer le phénomène dans l'histoire, c'est quasiment impossible. Et puis en toute honnêteté, même si j'avais dit oui de prime abord, je fuis un peu les adaptations de romans en BD. Pardon Béatrice. Et alors en fait je comprends tout à fait la demande, hein, puisque on peut s'imaginer que les adaptations ça permet de faire un pont entre deux expressions littéraires et une voie de passage rassurante pour des lecteurs qui, alors il n'y en a pas ici, je suis très content, qui ne lisent jamais de BD, qui peuvent passer du roman à la BD, et parfois ça marche. Pour être tout à fait juste avec vous, hein, moi j'ai adoré certaines adaptations quand même, il y en a qui sont magnifiques. Moi j'ai pensé notamment en essayant de chercher des adaptations au 1984 de Xavier Coste. Alors faites attention parce que 1984 est tombé dans le domaine public il y a 2 ans et il y a eu 6 BD en 2 semaines sur 1984. Donc bien celui de Xavier Coste, les autres sont beaucoup moins bonnes. Xavier Coste, juste pour dire, il a commencé à vouloir écrire cette BD, il avait 13-14 ans et il a attendu que ça tombe dans le domaine public pour pouvoir la publier, et donc il avait préparé un peu le sujet. Mais je peux aussi penser à l'adaptation de Revoir là-haut de Christian de Métel. Oui.
Et il a fait 1985.
Et il a fait 1985. La suite, il a inventé, il a osé inventer la suite d'Orwell. Alors je peux penser aussi du coup à Au revoir là-haut, qui a été adapté par Christian de Métaire, ou le traumatisant La route, qui est dans le top 100, et c'est même la seule BD de 2024 qui est dans notre top 100, qui a été fait en 2025 par donc Manu Larsson.
Excusez-moi, vous
n'avez
pas Le vent dans les saules?
Non, il n'y est pas, non. Mais, je ne sais pas si vous êtes arrivé en cours ou à la fin de... au tiers. Ouais. C'est que ce n'est pas nous qui avons fait le classement. C'est un classement participatif, c'est des votants du monde de la BD qui ont fait le classement. Donc du coup, on est responsable de rien. Après, en effet, oui. Alors, c'est que il y a la liste dans le magazine si vous le voulez. C'est des auteurs, dessinateurs, éditeurs, libraires. Il y a des journalistes, il y a des critiques sur Instagram ou sur dans des podcasts BD, etc. Voilà, c'est vraiment des professionnels. On a 80% d'auteurs. Hein, c'est les auteurs qui ont élu leur père. Donc là où je voulais en venir sur l'adaptation, c'est que ça peut paraître rassurant, mais qu'un excellent livre, comme c'est le cas pour le cinéma, ne fait vraiment pas nécessairement une excellente BD, souvent loin de là. En revanche, je peux vous l'assurer et en prendre le pari, et ma collègue l'écrit d'ailleurs dans l'édito qu'il y a dans le hors-série, il y a forcément une BD pour vous. Je dirais même plus, on va paraphraser les Dupont, il y a des dizaines de BD pour vous. Vous pouvez chercher, il y en a forcément. Il suffit de les trouver. Et donc ce top 100 que nous avons fait me paraît, pour moi, un excellent point de départ, évidemment. Donc explorez-le, partez des thèmes qui vous intéressent. Moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de partir des thèmes que les auteurs. Après, quand vous avez les auteurs que vous aimez, vous pouvez essayer de remonter, de voir ce qu'ils ont écrit avant. Et en tout cas, ce top 100, c'est une mine d'or pour moi. Comment dire? Vous savez, mon fils a lu ses premières BD, il avait 2-3 mois. Moi, je lui disais déjà de la BD. Moi, j'en lis tous les jours. Ma grand-mère a 90 ans, elle lit de la BD, avec mes conseils ou avec les conseils de son libraire. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, le dernier conseil que je donnerais, moi, c'est, après, promis, je m'arrête, ce serait celui-là, donc d'aller voir, de ne pas hésiter, évidemment, à la bibliothèque, d'aller emprunter des BD, de demander des conseils, etc. Mais aussi de pousser la porte des librairies spécialisées BD. Alors, je sais qu'ici, à Marly, il y a une librairie, c'est les Petits Pantins, je crois.
Mais qui n'est Petit Lutin.
Petit Lutin, pardon. Mais qui est généraliste, c'est ça.
Mais
qui a un bon rayon BD. Sinon, j'avais vu que vous êtes entouré de librairies BD autour, puisqu'il y a la Marque Jaune à Saint-Germain-en-Laye. Il y a la Dulambule à Ruelle-Malmaison, et sinon c'était ma librairie, donc j'en parle quand même. Le comptoir de la BD à Boulogne-Billancourt et à Versailles. Donc pendant des années j'étais chez eux et voilà.
Et il y a
donc...
Bulle Imaginaire aussi à Sartrouville, qui est une petite librairie.
Ah bah je connais
la librairie. Qui fait partie de Canal BD, qui a ouvert il y a 2 ans. Elle a fêté son anniversaire il y a pas longtemps.
Encore
et
une.
Et il y a un prix BD, ils font un prix BD, prix des bulles à la médiathèque de Sartrouville également.
Et ben voilà, donc il y a plein de lieux, il ne faut pas hésiter à y aller.
Parce que sinon, les petits lutins, elles peuvent aussi commander. Voilà.
Mais en tout cas, les libraires, c'est des passionnés par leur métier, par la BD. Ils sont le plus souvent assez adorables quand même. Ils peuvent vous conseiller en fonction de vos anciennes lectures, souvent. Et si vous avez un compte en plus, ils vous retrouvent, etc. Et puis parfois, vous tomberez sur une BD qui vous tombe des mains. Hein, ça arrive aussi, moi aussi, ça m'arrive régulièrement. Ne forcez pas, reposez-la, c'est pas grave, elle était pas pour vous, mais il y en a des milliers d'autres. Voilà, merci à vous.
Merci.